Vendredi ou la ville durable, épisode 3. Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de Parole d'élu, ou plutôt Egunon, comme on dit en langue basque. Si cette rapide introduction ne nous a pas épargné quelques clichés sur Bayonne et le Pays basque, nous allons dans ce nouvel épisode de Vendredi ou la ville durable les laisser rapidement derrière nous pour découvrir quelques belles initiatives de ce territoire. Il sera question en effet durant l'heure à venir d'économie sociale et solidaire, mais aussi de monnaie locale, de formation aux enjeux environnementaux, d'innovation, de tiers-lieux, de tourisme numérique et durable et même de NFT. Avec comme fil conducteur l'esprit d'entreprendre. Et comment expliquer cette soif d'entreprendre? Pour l'une des personnes interviewées dans cet épisode, cette caractéristique typique du Pays basque est liée directement à ce que l'on appelait durant des générations le droit d'aînesse. Mais laissons cette question de côté pour le moment et partons sans plus tarder à la rencontre de ces acteurs engagés. En tirant ensemble sur le fil de cet écosystème, nous allons donner un autre sens à l'expression « pelote basque ». Et pour commencer, direction le Vieux Bayonne et plus précisément le Café des Pyrénées. Dans ce lieu historique et militant, qui a aussi été l'un des premiers commerces à accepter l'Ochko, nous avons rendez-vous avec Mendy Esteban, membre du comité de pilotage de cette monnaie locale.
Je m'appelle Mendy Esteban, je suis membre du comité de pilotage actuellement. J'ai fait partie de ce comité en fait, de pilotage depuis le début et donc je fais partie de la genèse du projet.
Ochko, ça veut dire quelque chose?
Alors on prononce Ochko parce qu'en basque toutes les lettres se prononcent distinctement. Ochko, c'est une référence à Euskal Herria, le Pays basque en fait. C'est le radical de.
D'accord.
Du Pays basque.
Ok, donc oui, donc forcément fédérateur.
Voilà, forcément fédérateur. Et puis, bon, pour l'anecdote, on avait fait un sondage participatif pour choisir le nom de cette monnaie. Et donc, finalement, au bout de quelques mois de réflexion, c'est ce nom que les habitants du territoire ont choisi pour leur monnaie, ont choisi eux-mêmes.
Quel était peut-être le point de départ?
On a eu connaissance en fait de l'abeille, donc c'est la monnaie locale qui est en cours à Villeneuve-sur-Lot. C'est parti de ça en fait. Pour d'autres raisons militantes et écologistes, on s'était rendu là-bas et donc de fil en aiguille, on s'est dit qu'il nous fallait un projet similaire pour le Pays basque. Et on s'est monté un petit groupe pour le lancer. On a eu quand même assez de succès dès le début en fait. On a réussi à réunir beaucoup de monde autour de nous. Déjà l'avant-projet en fait, avant de le sortir, parce qu'on ne dirait pas, mais c'est quand même beaucoup de travail en amont. Et on a été très vite victime de notre succès quand même, puisqu'on a dû réimprimer des billets au bout de 4 mois. Des billets qui étaient prévus pour durer 2 ans.
Est-ce que vous pouvez nous le rappeler d'abord, le concept de la monnaie locale?
Mais déjà, dans le nom, c'est une monnaie complémentaire. Donc, dans la façon de présenter, je pense qu'on a toujours mis ça en avant. Une monnaie complémentaire, par définition, elle ne remplace pas quelque chose qu'il y a déjà en place.
Ça permet finalement de produire de la richesse localement. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire un peu les grands principes qui font que ça fonctionne?
Oui, alors pour faire simple, un Ochko est égal à 1 euro. Mais cet Ochko est valable seulement sur le territoire défini, donc entre membres d'une même association. Et donc il circule plus sur le territoire que ne circulerait l'euro, qui irait éventuellement sur des marchés financiers ou dans un circuit beaucoup plus large. Donc ça favorise l'économie locale et circulaire à une toute petite échelle qui est la nôtre.
Combien de personnes sont engagées? Combien de commerçants peut-être acceptent l'Ochko? Et est-ce que vous avez des chiffres de la circulation de cette monnaie?
Dans les grosses lignes, il y a actuellement 4000 utilisateurs de l'Ochko, environ 1700 entreprises prestataires dans lesquelles on peut dépenser nos Ochko et 4 millions d'Ochko en circulation.
Et c'est un chiffre qui du coup ne peut que s'accroître.
Voilà, on avait imprimé en janvier donc 2013 pardon, les années passent vite, 137 000 euros 500. Oui, c'était déjà ambitieux et on était parti pour un jeu de billets qui devait durer 2 ans, donc qui a duré que 4 mois.
J'avais aussi d'autres questions sur tout ce qui était approche numérique, puisque du coup vous êtes passé de ce petit billet qui était un peu des billets de Monopoly à du numérique. Est-ce qu'on garde la même dynamique avec du numérique et quels sont du coup les côtés positifs ?
Ah, le gros côté positif, c'est forcément en extension, parce que du coup les commerçants, ça leur permettait de payer des plus grosses sommes, des plus grosses factures. Et donc de passer aussi tout le montant de la facture en EOSCO et pas seulement une petite partie, peut-être 50 EOSCO et puis le reste en euros. Là, ils peuvent passer par exemple 500 EOSCO en facture numérique, c'est beaucoup plus facile. On peut faire des transactions de compte à compte maintenant avec juste une connexion internet, c'est beaucoup plus simple.
Qu'est-ce qui fait que chez vous ça a fonctionné comme ça ?
Le plus gros des facteurs, ça a été la conscience collective en fait, du territoire. L'identité culturelle et l'identification des personnes qui utilisaient les EOSCO au sein de ce territoire, pour moi c'est ça la clé du projet.
Est-ce que ça veut dire que certains commerces ont dû montrer patte blanche et ont travaillé par exemple à aller chercher changer de fournisseur?
Oui, pas systématiquement, parce qu'il y en a qui avaient déjà une démarche très éthique et très locale à la base, mais pour certains, ça a été un vrai défi, pour d'autres, de petites adaptations. Mais le but de la démarche EOSCO, c'est justement de faire changer les pratiques à terme. Donc c'était ça qui était intéressant à aller chercher. Petit à petit, ça a fait tache d'huile. Et maintenant, il y a 36 collectivités, si je me souviens bien, qui acceptent les EOSCO au sein de leur comptabilité, au sein de leur régie. C'est possible de recevoir une partie de son salaire en liquide, en espèces, s'il est spécifié sur le bulletin de salaire, et c'est un certain pourcentage de la somme totale. J'ai oublié le pourcentage exact. Et donc depuis le début, certaines personnes au Pays Basque Nord avaient reçu une partie de leur salaire en EOSCO. Ce qui permettait aussi souvent aux commerçants de se payer une partie du salaire en EOSCO et donc de faire circuler cette monnaie. Je crois qu'il y a un volet, oui, justement, de l'EOSCO dont on n'a pas parlé, c'est le 3% aux associations. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, quand on adhère à l'EOSCO, on parraine une association de notre choix, qui elle-même doit être membre de l'EOSCO, et lorsqu'on change nos euros en EOSCO, 3% de cette somme et va à cette association. C'est-à-dire que moi, si tout à l'heure je change 100 euros en EOSCO, je crée un bonus d'émission de 3% à l'association que je parraine. Donc concrètement, c'est l'école de mes enfants qui reçoit 3 euros à chaque fois que moi je change 100 EOSCO.
D'accord. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'associations qui bénéficient ?
Oui, il y a de tout. Hein. Oui, il y a des associations sportives, des associations culturelles, des associations qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Et il y a Egalaldia, c'est par exemple une association qui s'occupe de recueillir des oiseaux essentiellement, mais d'autres animaux, elle est soignée, il y a de tout.
Et ça, c'est depuis le début ?
Oui,
d'accord.
C'est depuis le début, et pour tout dire, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est le King of Work, donc c'est une autre monnaie locale d'Allemagne, dont on s'est beaucoup inspiré au début. On avait été là-bas justement, nous, en formation, avant de créer cette monnaie. Et c'est eux qui avaient inventé ce système d'émission, et c'est quand même très motivant pour les utilisateurs particuliers.
Maintenant que nous savons tout, ou presque grâce à Mandy, sur l'EOSCO, continuons à tirer sur le fil de cet écosystème si particulier en allant découvrir non loin de là l'Institut Billard, un organisme d'éco-formation à but non lucratif. Très proche de l'EOSCO donc, et certifié Calliope, c'est important de le préciser, et qui œuvre pour la transition écologique au Pays Basque. Avant de rencontrer Marine Giraud, coordinatrice au sein de l'Institut, une petite précision linguistique s'impose. Le mot billard signifie « demain » en langue basque.
Oui, bonjour, j'avais rendez-vous avec Marine Giraud, c'est Valentin, de Parole d'Élie.
Première étape.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
Valentin.
Enchantée, Marine. On va se mettre là, ouais. Je pense, parce que du coup, la salle est occupée.
Enfin, j'étais au bar, là, juste à côté, à Pyrénées. Donc, ils disaient qu'ils étaient un peu pionniers, ils avaient accueilli les premiers oignons. Là, il y a quelqu'un qui arrive, qui collecte des mégots. Je vois que ça, en fait, il y a tellement de choses qui. Mm. Je sais pas si c'est ça, en fait, la vraie pelote basque, mais assez vite, je suis tombé sur votre institut. Ouais, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites au sein de l'Institut ?
Billard, c'est un organisme de formation qui a été créé en 2018 à l'initiative de l'écosystème associatif local qui souhaitait en fait créer un outil pour pouvoir transmettre tout leur savoir-faire, toutes leurs connaissances sur les sujets de transition écologique. Parce qu'effectivement, au Pays Basque, on a un écosystème assez développé. Militants, alternatifs, voilà, sur différents sujets liés à la transition écologique. Et du coup, c'était des associations qui étaient très sollicitées par d'autres associations, d'autres territoires ou d'autres, voilà, d'autres acteurs. Où on leur demandait souvent comment vous faites ci, comment vous faites ça, comment vous fonctionnez, comment vous avez monté tel projet, comment vous en êtes arrivé là, etc.
En plus du coup de leurs actions au quotidien.
Exactement, voilà. Et du coup, ils se sont dit, voilà, on va créer un organisme de formation en fait, qui va nous permettre de répondre en fait, à toutes ces demandes. Et en tête de file, dans ces associations fondatrices de billard, il y avait donc Euskal Moneta, qui est donc l'association qui gère aujourd'hui l'EUSCO, qui est la monnaie locale du Pays Basque, et qui fait référence au niveau national et même européen, puisque c'est la première monnaie locale européenne aujourd'hui. Ils ont créé à l'intérieur de billard un catalogue un peu plus spécifique de formation, qu'on appelle du coup l'Institut des monnaies locales. Et dans ce catalogue de formations, il y a des formations stratégiques, des formations métiers, des formations à destination des collectivités territoriales, soit les élus, soit les agents, soit les deux. Et où l'EUSCO, du coup, toute l'équipe de l'EUSCO, en fait, se mobilise. Donc on les a formés petit à petit à devenir formateurs et formatrices. Et ils dispensent, voilà, du coup, ces formations à destination des monnaies locales ou des collectivités territoriales. Okay. Et ensuite, sur le volet billard, du coup, donc plus ici, vraiment localement, on travaille avec d'autres associations, du coup, qui sont formatrices. Donc, par exemple, on peut travailler avec BC, qui dispense des formations à destination des élus. Donc, BC, c'est une association militante, activiste, qui œuvre pour le climat ici au Pays Basque, qui est à l'initiative au départ de Alternatiba. Et du coup, BC, ils ont décidé en fait, de faire signer aux élus qu'ils le souhaitaient un pacte de métamorphose écologique lors du dernier mandat municipal. Et en fait, pour les aider à mettre en place ce pacte de métamorphose écologique dans leur collectivité, ils ont proposé aux élus, à travers du coup BIAR, l'organisme de formation, ils ont proposé aux élus de suivre un certain nombre de formations pour mettre en œuvre chaque sujet du pacte, sachant qu'il y a 7 sujets. Donc du coup, il y a 7 formations sur les 7 sujets du pacte de métamorphose écologique proposé par BC. Donc c'est le premier cycle de formation, on l'a dispensé en 2022. On a formé une cinquantaine d'élus, il me semble. Le territoire, ouais, en gros, on dit Pays Basque, mais c'est communauté d'agglomération du Pays Basque, voilà. Et l'idée, probablement plutôt en 2024, c'est de faire un deuxième cycle de formation en essayant de toucher plus d'élus, des agents aussi. Et puis on est en train un peu de sonder les besoins un peu plus précis. Est-ce que vous avez besoin qu'on refasse le même type de formation qu'en 2022 ? Est-ce que vous avez besoin qu'on approfondisse certains sujets, qu'on passe un peu au niveau 2, être plus dans l'opérationnel ? Enfin bon, voilà, on voit là avec eux en fait de quoi ils ont besoin.
C'est un engagement qui était prenant pour eux, parce que je me dis, ils ont sans doute leur métier, leur mandat. Ouais.
Ah ben, ça n'a pas été facile de les mobiliser. Bon, de façon générale, c'est difficile de mobiliser les élus sur des formations, parce qu'effectivement, ils ont leur mandat, ils ont leur métier quand c'est des élus de petites communes à côté. Du coup, nous, on essaye de s'adapter, de faire ça sur des temps très courts. Là, on réfléchit à le faire peut-être plutôt le soir, peut-être à distance, peut-être le week-end, pour essayer de faciliter. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour eux de se mobiliser, mais il y en a eu qui l'ont fait de bon cœur. Il y en a certains qui sont venus à plusieurs formations, on les a vus 3, 4, 5 fois. Il y a un intérêt. C'est, le tout, c'est de mettre en œuvre, derrière.
Ce qui m'impressionne en venant ici, c'est le côté très professionnel de toute cette démarche. Ça a toujours été le cas?
Alors, Billard, au départ, voilà, je vous disais, ça a été créé vraiment à l'initiative du secteur associatif, du milieu associatif, donc de bénévoles, militants. Voilà. Donc au début, ça a été monté complètement bénévolement. Alors il y en avait qui s'impliquaient plus ou moins, voilà, il y avait une présidente à Billard qui avait du temps à donner à Billard et qui du coup, qui avec l'aide d'autres personnes, voilà, de bénévoles autour, mais qui a vraiment fait émerger Billard en tant qu'organisme de formation. Et puis après moi je suis arrivée, donc Billard a été créé fin 2017 et moi je suis arrivée fin 2019. Donc je suis la première salariée en fait de Billard, je suis coordinatrice du coup de l'association et je suis venue professionnaliser un peu voilà, cette partie formation qui est quand même très réglementée et assez complexe.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différentes thématiques, différents domaines? Vous parlez d'alimentation, je crois qu'il y a tout ce qui est recyclage aussi.
Alors sur le volet transition, donc en dehors des monnaies locales, on balaye tous les sujets liés à la transition écologique. Donc on a un catalogue, on étoffe petit à petit au gré des sollicitations en fait qu'on reçoit de la part d'acteurs et d'actrices du territoire qui souhaitent dispenser des formations. Ou alors si nous il y a un besoin qui émerge de la part d'un prospect par exemple, ben, on va aller chercher dans le tissu associatif local s'il y a quelqu'un pour dispenser une formation sur le sujet. Et du coup on balaye effectivement tout ce qui est lié à la réduction des déchets, tout ce qui est lié à l'économie circulaire, les achats éco-responsables. Un petit peu. Tout ce qui va être lié aux écomobilités, donc le vélo, l'autopartage, voilà, etc. Le numérique responsable, on se lance là, sur ce sujet-là. C'est BC, du coup, qui va dispenser des formations parce qu'ils ont un groupe de travail en fait sur ce sujet. Enfin, c'est le besoin numéro un qui ressort, c'est sur le numérique responsable.
Et le fait d'être certifié? Oui. Est-ce que ça veut dire que ces formations du coup peuvent être prises en charge?
Oui, alors Calliope en fait ça permet à n'importe quelle personne qui vient se former chez nous de faire prendre en charge sa formation par soit son OPCO si la personne est salariée, soit par son FAF, fonds d'assurance formation, si la personne est indépendante. Et ensuite, pour la formation des collectivités territoriales, pour les agents il n'y a pas de souci et pour les élus il y a besoin d'un agrément complémentaire. Que le ministère de l'Intérieur la donne peu, voire plus. Et du coup, on est en partenariat avec un autre organisme de formation. D'accord. Qui, lui, a cet agrément et qui nous permet, du coup, de former les élus.
Mmh. Oui, il doit être là, 58.
J'ai entendu. Allez, là, impeccable. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Pour prolonger notre découverte du Pays Basque, nous avons maintenant rendez-vous avec Olivier Allemand. Adjoint au maire, en charge de la ville numérique et innovante à Bayonne, il porte cette même délégation au sein de la communauté d'agglomération du Pays Basque. L'occasion pour moi d'en savoir plus non seulement sur la stratégie globale de ces deux collectivités, mais aussi sur l'ANTIC, une agence très particulière qui est la première structure labellisée numérique responsable Pays Basque.
J'ai la même délégation à la ville et à l'agglo. Il faut savoir que l'agglo Pays Basque est la plus grosse agglo de France avec 158 communes. Donc j'ai la délégation du numérique. Ça comprend à la fois le développement des infrastructures, donc effectivement le développement de la fibre, notamment la 4G et la 5G, le développement des usages, donc ça on le fait plus particulièrement avec une agence qu'on a créée pour ça au niveau de l'agglomération qui est l'agence des usages numériques du Pays Basque, l'ANTIC, et il y a tous les aspects d'inclusion numérique avec le développement des maisons France Service et l'emploi de 40 médiateurs qui aident justement à faire en sorte d'accompagner les personnes, juniors ou seniors, qui ont du mal avec les outils numériques. Et dernier point, l'économie, parce que derrière, on a une technopole qui est dédiée au numérique à Bidart, là où il y a l'ANTIC d'ailleurs, qui est le siège d'ANTIC, et qui permet de développer, d'être une pouponnière pour les startups qui veulent se lancer, donc évidemment les startups numériques qui veulent se lancer, et deux, qui permet de faire un lien très fort avec la formation, puisqu'on ouvre une école d'ingénieurs sur le numérique à la rentrée 2025. Vous savez qu'il y avait une volonté politique de faire, j'allais dire, du Pays Basque un peu la Silicon Valley de la France. Donc du coup, effectivement, on a une volonté d'intégrer ces startups à forte valeur ajoutée et à emploi non délocalisable sur cette technopole pour en faire un peu le fer de lance, en tout cas français, sur ces sujets-là. Oui, il y a une vraie volonté politique. Et donc, du coup, on a 13 hectares là, aménagés justement pour pouvoir pour pouvoir faire de la pouponnière d'entreprise. On a un des leaders de la medtech, donc qui s'appelle Sophia Génétique, et qui a son siège qui est installé à Bidart, qui se développe. Donc on leur a fait une extension dernièrement. Mais c'est vrai que quand on parle de numérique, on parle de sujets qui sont transversaux sur beaucoup de disciplines. Là, on parle de la medtech, mais il y a aussi l'agtech pour l'agriculture, hein, parce qu'aujourd'hui, on a une agriculture de précision. On a réussi à faire travailler un certain nombre d'acteurs pour leur faire comprendre que leurs données, certes, c'était leur propriété, mais qu'il fallait qu'on la partage pour pouvoir aller encore plus haut ensemble. On a fait une plateforme qui s'appelle Zabal, Z-A-B-A-L, qui est une plateforme de données économiques pour les filières agricoles. Donc ça, c'est typiquement un outil qu'on a réussi à créer grâce à la data qu'on a partagée.
Vous vous souvenez sans doute de mon interrogation en introduction. Comment expliquer cet esprit entrepreneurial fort que l'on trouve au Pays Basque? Pour Olivier Allemand, cette caractéristique trouve son origine dans une organisation qui, pendant très longtemps, a été importante dans les campagnes.
En fait, dans la culture basque, il y avait jusqu'à il y a une centaine d'années ce qu'on appelle un droit d'aînesse, c'est-à-dire que seul l'aîné héritait de tout, c'est-à-dire essentiellement à l'époque de l'exploitation et de la ferme. Et donc, tous les autres devaient entreprendre et se débrouiller. Donc, dans la culture basque, il y a ça, et c'est très présent. C'est pour ça qu'il y a des Basques à travers le monde, parce que de toute façon, ils étaient obligés de trouver d'autres terres à l'époque, puisque c'était ça... c'est l'agriculture qui était leur savoir-faire pour pouvoir s'exporter. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours cette culture d'entreprendre, mais par contre, on veut rester au pays. Donc, du coup, il faut impérativement trouver les idées pour pouvoir rester et entreprendre au pays. Donc.
Cet échange avec Olivier Allemand m'a permis d'en savoir un peu plus également sur les enjeux et projets numériques à l'échelle de la ville de Bayonne, cette fois.
Les projets numériques de la ville, parce qu'ils sont assez basiques quelque part, parce qu'on n'a toujours pas d'application, et c'est ce qu'on va sortir d'ici la fin de l'année, en fait, pour que le citoyen bayonnais puisse récupérer toutes ces infos, que ce soit de réservation à la piscine, à la crèche, ses factures d'eau, il retrouvera ça dans toute une application, y compris toutes les activités culturelles de la ville. Donc on n'a pas encore ça, donc ça c'est un outil qui est précieux. Et pareil, sur l'aspect touristique, on travaille sur des promenades touristiques à travers la ville thématiques avec des QR codes, avec la réalité augmentée. Et on va aussi transformer toutes nos visites de musées en additionnel, en réalité augmentée, pour avoir une dimension très ludique pour les jeunes. Voilà.
Fort de cet entretien, j'ai eu envie de rencontrer concrètement des entrepreneurs installés au Pays Basque et qui travaillent dans le numérique. Le premier d'entre eux n'est autre que Franck Dupont, cofondateur d'OpenGem et de NFT Biarritz, un événement créé l'an dernier et qui s'est fait rapidement connaître au niveau national.
J'ai 32 ans, je viens d'une école d'ingénieurs classique que j'ai faite à Paris. Et en fait, depuis que je suis sorti de cette école, j'ai jamais vraiment eu d'expérience salariale. J'ai que fait des boîtes plus ou moins tech parce que ça me convenait pas trop le salariat donc j'ai commencé par un service de livraison de petits déj à domicile pendant un an, pas de traction, on a arrêté. J'ai fait pas mal de SaaS, vous savez, les plateformes en ligne qu'on laisse aux gens utiliser. Pour le coup là, c'était interception.fr, c'était un dispatch d'alerte pour la préfecture et mairie. Donc en gros, on clique sur un bouton et ça envoie des milliers d'SMS à une population pour prévenir d'un risque ou d'une information importante. D'ailleurs, ça venait du Bataclan, ce genre de besoin. Il y avait des vrais problèmes de réquisition de personnel et de là m'est venue l'idée de faire ça. Après, je fais pas mal de petits trucs. Et il y a un moment, j'ai déménagé parce que j'en avais marre de Paris. Donc là, il y a 4 ans et demi, au Pays Basque. Là, j'ai fait la rencontre de Camille Matisse, un entrepreneur aussi au Pays Basque qui a monté Conquistador à l'époque, qui est, on va dire, à la base, c'était une association où il essayait de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat de manière locale au Pays Basque. Et on s'est rencontrés, ça a bien matché. Et à trois, avec Pierre Alain, un autre associé, on a créé la boîte Conquistador, qui était un centre de formation, plus, on va dire, accélérateur de start-up au Pays Basque. Donc ça a duré 2 ans et demi, on avait 6 salariés, c'était cool. Et après, j'ai découvert le Web3, la blockchain, les NFT, donc là il y a mon côté tech qui est revenu, et je tombe amoureux de cet écosystème. Et là, j'ai monté OpenGem, notre boîte avec mon frère. Donc, je me suis désassocié de Conquistador pour monter OpenGem. Ça fait 2 ans maintenant. Et là, on est dans l'audit de smart contrat d'NFT. Donc, en fait, on regarde le niveau de sécurité des NFT, puisqu'on avait repéré une vraie faille dans cette techno. Donc, on est devenu un peu le Yuka des NFT. On a commencé à scorer des projets pour mesurer le niveau d'ownership que possède un owner avec son NFT. Et petit à petit, on faisait des meet-ups aussi tech sur ces sujets-là. Donc, des meet-ups à Paris et à Biarritz, une espèce de petite conférence de 50, 100 personnes. Ça grossissait, et puis localement à Biarritz, je voyais bien qu'il n'y avait pas grand-chose sur le Web3 et le NFT, et pourtant on y voyait vraiment un vrai avenir. Il y avait Surfing Bitcoin, mais c'est vraiment très axé Bitcoin pour le coup, et moins Web3 généraliste. Et du coup, c'est de là nous est venue l'idée de lancer NFT Biarritz l'année dernière, en 2022, sur un coup de tête, 3 mois avant. Donc on a tout organisé en 2 mois, facile. On s'est retrouvé, au début on pensait être 200, 300, on s'est retrouvé à 400 personnes, c'est assez incroyable, on avait une cinquantaine de speakers, donc c'était une belle réussite, c'était sur un jour l'année dernière, et cette année c'était la deuxième édition, on a fait beaucoup plus gros, donc sur 2 jours, il y avait plus de 100 speakers, 60 workshops, et ça a rassemblé des belles boîtes internationales, des gens qui sont venus de New York et tout, donc c'était vraiment vraiment sympa. Après, nous, on est des techs. On fait ça un peu pour s'amuser, NFT Biarritz. Nous, à la base, on est OpenGem. On fait des audits de smart contracts. C'est là qu'on gagne de l'argent. NFT Biarritz, c'est pas vraiment notre business, notre cœur du business. Mais ça permet de bien péter l'écosystème tech local. Et c'est ce qu'on veut. Et puis, ça permet aussi d'apprendre beaucoup parce qu'on a un événement qui est très, 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 très orienté atelier pratique. Et c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Il y a une soixantaine de workshops où il y a des gens derrière qui te disent où cliquer sur ton ordinateur. Et ça, c'est assez unique. Et c'est ce qu'on aimerait vraiment aborder avec NFT Biarritz. Voilà. Apprendre en s'amusant, dans un cadre chill, on est en vacances. Et il y a une soixantaine d'ateliers pratiques gratuits. Vous pouvez dater un legal officer à NFT Biarritz. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez gratuitement pendant 15 minutes à un legal juriste Web3, ce qui est très recherché dans ce milieu. Il y avait des battles de prompt, on a même mis de l'intelligence artificielle dans cet événement. Battle de prompt, c'est quoi? C'était deux artistes qui s'affrontaient à coups de prompt IA pour générer l'œuvre la plus belle en 10 minutes. C'est super divertissant et en même temps, on apprend de ouf parce qu'on voit en live comment ils utilisent des moteurs IA. On pouvait créer son smart contract, on pouvait déployer son NFT. Même si on connaît rien à la crypto et rien au Web3, on pouvait venir avec son ordinateur. Et on ressortait de l'événement avec vraiment, je sais comment trader une crypto-monnaie, je sais comment posséder un NFT, je sais en créer un, je sais à quoi ça sert, etc.
Est-ce qu'il y avait un profil type du public?
Non, pas type. Par contre, énormément de diversité. Ce qui est très rigolo, c'est qu'on est à Biarritz, on n'est pas à Paris. Et du coup, l'alchimie, elle est folle parce qu'on va dire qu'il y a un bon 40% qui venait de Paris, donc qui venait le voyage pour aller à Biarritz. Et le reste, c'était du local. Et dans le local, il y avait vraiment, vraiment de tout. J'ai vu des entrepreneurs, j'ai vu des freelances, j'ai vu des salariés, j'ai vu de la famille, avec des enfants qui venaient. Donc vraiment, c'est très rigolo parce que ça, on voit pas du tout à Paris. On voit pas du tout dans les événements tech traditionnels. Et là, bizarrement, NFT Biarritz, parce que c'est les vacances, on est en pleine période de vacances, parce que peut-être qu'il y a un cadre beaucoup plus chill, peut-être que c'est un peu décalé, puisque notre chart graphique est assez décalé, assez fun, assez. Tout ça participe au fait que finalement, il y a plein de gens qui s'y reconnaissent, alors qu'ils ne sont pas forcément très proches du sujet. Et ça, c'est très, 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 très cool. On est très content de l'avoir créé, ça, pour le coup.
Est-ce que vous imaginez déjà les étapes d'après? Est-ce qu'il y avait une thématique cette année? Il y aura une suite l'année prochaine? Comment vous imaginez l'après?
Ah, c'est une bonne question. S'il y avait un sujet cette année particulier, pas vraiment, même si on a quand même ajouté l'IA cette année, c'est une nouveauté, parce qu'on pense vraiment que ça fait partie d'une grosse innovation qui arrive et qui est très complémentaire avec le Web3. L'année prochaine, on est très court-termiste avec mon frère, dans l'exécution, l'entrepreneuriat en général. Donc en fait, j'ai envie de dire, on verra. Par contre, oui, on voit bien qu'on a créé un rendez-vous maintenant. La deuxième édition nous l'a confirmé, les gens nous attendent. En vrai, on va faire quelque chose, c'est sûr. On ne sait pas juste encore sous quelle forme et avec quel contenu, mais on restera dans tous les cas avec cet objectif que les gens apprennent en s'amusant, tout en étant dans cette ambiance chill, mais no bullshit. On aime bien dire ça, chill but no bullshit. On le met un peu partout ce truc. Et pour le coup, oui, peut-être que ce ne sera pas forcément que sur les NFT, mais aussi sur l'IA. On va peut-être un peu plus s'élargir sur ça parce que ça nous ressemble même pas de se cantonner à une tech. Nous, on est des alchimistes, hein. On est là, on fait des expériences, on regarde ce que ça fait. Donc, on est très ouvert sur toutes les nouvelles technologies, tant que ça sert à l'usage au quotidien. Donc, oui, on va revenir. Je sais pas trop ce trop sous quelle forme, mais clairement, on gardera notre personnalité.
Et est-ce qu'entre la première et la deuxième édition, vous avez réussi à fédérer un peu plus de bénévoles ?
Belle question, merci de la poser, on ne nous la pose pas assez. Clairement, l'année première année, c'était compliqué de trouver les bénévoles parce qu'il fallait faire de preuves et qu'on avait une petite équipe et qu'on a... Nous, on est des techs, on n'est pas des managers. Donc, en fait, c'est compliqué même pour nous de gérer d'un seul coup des bénévoles, surtout quand il y en a une vingtaine. Et on avait un peu raté ça l'année dernière. On était très sollicités, moi et Damien, finalement, et les bénévoles étaient moins autonomes que cette année. Par contre, cette année, on a réussi à beaucoup mieux fédérer. On était une trentaine de bénévoles, ils étaient très autonomes et on est très contents de ce level-up par rapport à ça. Donc, un bel impact sur les bénévoles et on sent même beaucoup plus de fierté de leur part de participer à ce mouvement. Donc, ça fait vraiment plaisir qu'on a réussi à créer ce truc-là. Ouais.
J'avais une dernière question sur le lieu, le bâtiment. Est-ce que c'était important aussi pour vous de choisir un bâtiment peut-être avec un esprit particulier ? Est-ce que vous avez eu le choix d'ailleurs peut-être ?
Alors, en fait, c'est rigolo parce que la première année qu'on a lancé NFT Biarritz, c'était parce que justement, j'avais de bonnes relations avec ce lieu-là parce que j'avais déjà fait des meet-ups là-bas et qu'ils aimaient bien le sujet et que j'étais le seul à en parler sur le local. Et que du coup, moi, naturellement, je leur ai proposé ce projet-là. Si vous voulez, on fait un vrai salon et on y va, quoi. Ouais, grave. En fait, ça s'est fait un peu naturellement. Le lieu est tout neuf. Il est très, très, très beau. Il ressemble vraiment à notre identité parce que, je sais pas si vous avez vu un peu, il y a des palmiers, il y a une verrière, il y a le soleil qui rentre. Ça participe vraiment à l'énergie qu'on voulait mettre dans cet événement-là. Donc, clairement, c'était assez évident pour nous de choisir le connecteur. Puis le connecteur est très impliqué dans la tech. Et cette année, ils ont joué encore plus le jeu que l'année dernière sur l'événement NFT Biarritz que l'année dernière. Donc, très content avec le connecteur. Un grand merci d'ailleurs au directeur qui nous fait confiance cette année parce que c'est un nouveau directeur qui est arrivé cette année et qui tout de suite nous a donné les clés du connecteur et les gars à foncer. Donc, merci à eux et à toute l'équipe qui sont très contents aussi de notre collaboration et qu'on continuera sûrement plusieurs fois avec eux.
Merci beaucoup pour cet échange.
Merci à toi. Salut, bonne journée. Bon.
Autre exemple de ma plongée dans l'écosystème des entrepreneurs du Pays Basque, avec Bénédicte Solem, fondatrice d'Itsa.
Egunon, Norcia.
Egunon, Bénédicte Nice, je suis Bénédicte Solem, j'habite à Bayonne et j'ai créé l'agence web communication Itsa en 2019. Maintenant, je suis spécialisée en marketing, communication digitale, avec une grosse expérience à l'international et aujourd'hui, mon cheminement dans le développement de l'agence, c'est de pouvoir proposer des outils plus responsables à mes clients.
Itsa, c'est aussi un mot basque. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Absolument. Donc, c'est un nom basque qui veut dire le mot ou la parole. Et l'idée, en fait, par rapport à ça, c'était en communication, l'objectif, c'est de permettre aux entreprises de transmettre leur message pour communiquer sur leurs services, sur leurs produits, mais aussi les collectivités, pour transmettre l'information. Donc, c'était une référence à ça. Et ce qui est très important aussi de savoir, c'est qu'en langue basque, Itsa Hitz, qui reprend donc le mot Itsa, ça veut dire la confiance donnée, le mot donné. Et ça reflète en fait des valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire de vraiment d'instaurer une confiance dans les relations professionnelles.
J'étais il y a quelques instants à l'Institut Viard où on a parlé justement numérique responsable et la personne que j'ai interviewée me disait qu'il y avait des grosses attentes au niveau du monde professionnel. Est-ce que c'est quelque chose justement que vous ressentez par rapport à vos clients ? Est-ce que c'est quelque chose qui on vient vers vous pour dire j'ai besoin d'un accompagnement pour avoir une pratique numérique, peut-être des outils numériques plus responsables ?
Alors clairement aujourd'hui non, pas vraiment. Je pense que ce qui se passe, c'est que les entreprises et les collectivités se rendent compte qu'en termes de politique RSE et RSO, elles ont des obligations légales qui peuvent être soumises à des sanctions. Donc je pense qu'initialement, il y avait davantage cette notion d'obligation plutôt que de sensibilisation. Aujourd'hui, moi, je propose ces outils à mes clients, que ce soit des entreprises ou des collectivités ou des organisations, parce que je pense qu'en tant que professionnel, j'ai une conscience qui me dit qu'il faut que j'éduque entre guillemets mes clients et que je les sensibilise à ce sujet-là. Bien souvent, les gens ne se rendent pas compte du tout que le numérique peut être polluant. Et l'idée, c'est vraiment de leur expliquer comment ça fonctionne et c'est pas forcément quelque chose dont ils ont l'idée initialement. Moi, je présente Itsa comme un nouveau modèle d'agence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de salariés volontairement, parce que j'ai travaillé avant en agence digitale. Et c'était Emile Eschker Cappuccino. On arrête ça. Milesh Karayetz. Avant, j'étais salariée dans une agence digitale. Et donc, on travaillait en collaboration avec les autres salariés du groupe et tout se passait très bien. Mais le constat, c'est que quand on a des compétences en interne, on répond aux besoins du client avec les compétences qu'on a.
On a tendance à orienter, vous voulez dire, finalement, par rapport à ce qu'on sait faire.
Bien sûr, ce qui est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre un site internet avec une technologie si notre développeur, par exemple, ne sait pas le mettre en pratique, n'est pas spécialisé dedans. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais bloquant, pas forcément très juste et pas très transparent par rapport au client. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un chef de projet, qui est moi, qui est aussi spécialisé en stratégie, et ensuite d'avoir des collaborateurs spécialisés dans chacun de leurs métiers spécifiques liés au web et à la communication, et de faire un travail commun pour mener à bien les missions et surtout répondre aux attentes et aux besoins des clients. Donc, par exemple, je travaille avec Alexia Ducrot de l'entreprise Ossine qui, elle, arrive en amont, qui est vraiment spécialiste des stratégies de marque orientées sur le responsable. Donc, bien souvent, on fait un travail effectivement d'audit, de diagnostic avec l'élaboration d'une stratégie sur laquelle Alexia travaille. Ensuite, ça redescend vers moi. Vraiment, moi, je vais travailler plus sur le digital et sur l'exécution. Et ensuite, je travaille avec des développeurs, des intégrateurs, des graphistes, des spécialistes en référencement naturel dans Google pour mener à bien l'ensemble de ces projets.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux sociétaux autour d'un numérique plus durable ?
Je pense que déjà, il y a peut-être une définition à avoir, c'est qu'est-ce que le numérique responsable ? Il y a plusieurs façons de le décrire et peut-être de l'appréhender. Moi, je pense que c'est à la fois un rapport avec l'écologie et aussi un rapport avec l'éthique et avec l'humain. Et pour moi, ça va être davantage déjà pas un numérique responsable, parce que ça n'existe pas, mais un numérique plus responsable, en tout cas le plus responsable possible, que j'ai même envie d'appeler sobriété numérique. Et pour moi, aujourd'hui, les économies de planète au sens très large que nous pouvons faire, elles vont vraiment s'appuyer sur cette sobriété, mais aussi sur une transparence. Aujourd'hui, quand je présente ces aspects de numérique plus responsable, de sobriété numérique à mes clients, je suis tout à fait transparente avec eux. Ce n'est pas parce qu'on fait un site éco-conçu, c'est-à-dire qu'on met en place plusieurs critères qui sont notamment recommandés par le ministère de la Transition écologique avec le GR491, qui est le guide de référence de conception responsable de services numériques qui comprend 8 familles de critères avec 61 recommandations et 516 critères au total. Donc ça fait partie en fait de la conception du site internet, la façon dont on est construit. Clairement, c'est pas ça qui va changer le monde, mais c'est comme pour tout, c'est une pierre à l'édifice et je pense qu'il faut, c'est une approche que tout le monde doit avoir et chaque geste compte. Je pense qu'aujourd'hui on en est clairement ici. Et ce n'est pas tant les sites internet en eux-mêmes, mais on va dire plutôt les données. Donc le numérique, en fait, qu'est-ce qui va être le plus polluant dans le numérique ? Ce sont les appareils qu'on utilise, votre smartphone, mon écran, mon ordinateur. Pourquoi ? Parce que c'est de la production qui n'est pas toujours faite de façon éthique, avec des matériaux qui sont rarement recyclables et recyclés. Donc l'enjeu, il est vraiment par rapport à ça. Donc comment on consomme le numérique ? Avec quels outils on consulte du numérique ? Et ensuite, le nerf de la guerre, c'est les données. Aujourd'hui, il y a énormément de données qui transitent, beaucoup via les emails. Donc les courriels sont absolument catastrophiques pour l'environnement, mais aussi les données, les contenus qu'on peut avoir sur un site internet. Et tout ça, en fait, c'est lié à des data centers, donc des serveurs, qui, de fait, qui sont du matériel pollué de toute façon par essence et demandent énormément d'énergie pour fonctionner et énormément d'énergie pour être refroidi et pouvoir fonctionner correctement. Donc le site internet ne va pas être le point vraiment de miracle, miraculeux par rapport au développement durable, mais ça fait quand même partie de la chaîne et tout ça doit s'intégrer dans un écosystème plus vertueux. Et c'est là en fait où moi j'interviens dans mon métier. Si j'ai des clients qui me disent « bonjour, moi je veux un site éco-conçu », ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'en amont, on va dire « Ok, c'est quoi votre stratégie produit, votre stratégie de marque ?» Si vous n'avez pas un discours transparent, si par exemple vous vendez vos produits qui peut-être s'inscrivent dans une démarche d'économie circulaire, mais que derrière vous avez des packaging en plastique, il y a des cohérences à avoir et il faut être cohérent avec la démarche que vous en avez. Il faut pour moi amorcer. Clairement, aujourd'hui, je ne ferai pas un site éco-conçu à un client qui vient me voir et qui n'a pas amorcé une démarche de développement durable, en fait, bien avant le numérique responsable.
Le troisième entrepreneur est aussi élu. Et pour le rencontrer, je suis allé dans ce qu'on appelle le Pays Basque intérieur, plus précisément à Asparin.
Je me présente, je m'appelle Jérôme Marieux, je suis élu à la mairie d'Asparin depuis les dernières élections 2020. Personnellement, je suis informaticien. Je fais de la recherche et développement dans une grosse entreprise. Bon, je peux la citer, Nintendo. Et je télétravaille depuis 2003-2004, par là. Je suis là à Asparin.
Comment on passe du coup de Nintendo à adjoint?
C'est un concours de circonstances. Madame la maire qui s'est présentée et qui a voulu que je l'accompagne dans cette aventure en tant que premier adjoint. C'était tentant pour apprendre des nouvelles expériences.
Est-ce qu'on peut avoir une petite description de votre collectivité?
Alors, nous sommes une ville de 8000 habitants, un peu moins, 7800. C'est une ville très agricole. On a plus de 200 exploitants agricoles sur la commune. On est une commune assez étendue puisqu'on fait 75 km². Je crois que c'est une des communes les plus étendues de l'intérieur du Pays Basque.
Et donc dans cette commune donc, très agricole, il y a un adjoint au maire qui est sur l'innovation, l'économie et le numérique, c'est ça?
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur la manière avec laquelle vous avez appréhendé et choisi cette délégation? Parce que j'imagine que ce n'est pas juste un choix personnel, mais qu'elle va correspondre aussi à des projections en termes de mandat.
Alors, derrière numérique, c'est assez simple, je suis informaticien, donc je viens de cet univers, et donc c'était assez naturel pour moi de prendre cette délégation. Derrière l'innovation, je suis chercheur aussi, donc ça. Mais bon, l'innovation, c'est pas forcément relié à la recherche, mais en tout cas, je pense que ça pouvait avoir des éléments connexes, et en tout cas c'est quelque chose qui me parlait, avoir des idées, plein d'idées qui des fois mènent à rien et d'autres fois peuvent mener à des choses intéressantes, c'est plutôt dans mon ADN. Sur l'économie, alors là je suis un peu moins sûr de mon coup, on va dire, puisque c'est pas mon métier. Bon, même si j'ai créé des entreprises dans ma vie, j'ai créé deux entreprises qui ont bien marché, mais enfin, j'ai co-créé, on va dire, parce que j'avais toujours des gens avec moi dans l'équipe qui avaient quand même une meilleure connaissance que moi de l'économie. Mais bon, c'est quand même un secteur que je connais un petit peu. Aujourd'hui, c'est l'agglomération qui a la compétence économique sur les entreprises. Et donc finalement, l'économie sur Asparin, ça revient à gérer un petit peu les commerçants, les implantations de commerce, les commerces vacants, le marché, les commerçants sur le marché, c'est essentiellement ça.
Et sur le numérique, du coup, comment ça se traduit? Quel dossier, par exemple, vous avez eu à porter depuis le début du mandat?
Alors pas mal, parce que on va dire que c'était un territoire qui était assez en retard, et même une commune qui était un petit peu en retard sur la partie numérique. Donc déjà, ça a été au niveau de la mairie et de la ville en elle-même, mettre en place des infrastructures. Donc on a mis en place une infrastructure fibre privée, donc ce qu'on appelle des fibres noires. Donc une fibre privée qui relie la mairie à tous les différents sites. Donc comme je vous ai dit, la ville d'Asparin est assez grande. Et donc on a la commune a plusieurs sites où des agents peuvent travailler et ont besoin d'avoir accès aux données, aux serveurs. Et donc on a mis en place un réseau privé qui a permis de relier les différentes instances de la commune au serveur centralisé. Ça a été recruter un informaticien aussi, puisqu'il n'y avait pas d'informaticien, et créer une application pour enseigner les habitants sur différentes informations que pouvait fournir la mairie. Donc ça peut être des informations sur l'équipe municipale, mais des actualités, un outil de signalement qui permet de signaler des déchets, des problèmes de voirie ou absolument n'importe quoi. Hein. En fait, ça arrive directement au service technique qui gère ensuite derrière. Il y a pas mal de choses dedans, les offres d'emploi.
C'était un choix d'accélérer sur ces questions-là.
Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Hein. En fait, c'est quand on voit toutes les communes, et pas que les communes, hein, toutes les instances publiques qui se font pirater, qui se font voler leurs données avec des demandes de rançon, il fallait absolument un système. Enfin, il fallait que quelqu'un passe du temps et s'investisse pour essayer de rendre les données, parce qu'on a quand même des données des habitants, des données. Qui ne doivent pas circuler non plus, il faut garder tout ça sécurisé sur nos serveurs et faire qu'on puisse éviter au maximum de se faire pirater. Et ça demande quand même du travail et de l'investissement. Et de la même manière pour les administrés, quand on veut fournir de l'information rapidement aujourd'hui, on est obligé d'avoir accès, d'avoir affaire au numérique. On a eu aussi le développement de la fibre publique sur Asparin, donc avec le département.
Et sur le côté cyber, est-ce que vous avez formé ou est-ce que vous allez former vos agents ou même les autres élus aux bons gestes et aux bonnes démarches?
Oui, alors on a en collaboration avec le département qui nous aide bien là-dessus, qui nous fournit des outils. On a mis en place un certain nombre de choses, hein, donc des outils. Je ne veux pas citer de nom de marque, mais des outils pour protéger les boîtes mail de tous les agents, des outils pour protéger tous les ordinateurs de tous les agents, des outils pour protéger les mots de passe aussi, pour avoir des gestionnaires de mots de passe et initier les agents à ce genre de pratiques. Donc ça, c'est l'informaticien de la mairie qui se charge de former tout le monde sur ces outils-là et de garantir que tout est bien utilisé comme il faut. Et on a mis en place aussi des systèmes de sauvegarde sécurisés de nos serveurs qui nous permettent de garantir que même au cas où notre réseau se ferait pénétrer, ce qui peut arriver, hein, on n'est jamais à l'abri, on ne perdra pas toutes nos données. Parce qu'on a en gros des données offline, des données déconnectées du réseau et tout un système de sauvegarde qui nous permet de sécuriser cette partie-là.
Ok. J'avais aussi des questions sur le Fab Lab, parce que j'ai vu que vous aviez le premier Fab Lab du Pays Basque, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est exactement ça.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce premier Fab Lab du Pays Basque?
Alors, ce Fab Lab, en effet, est un projet privé qui a été lancé par... essentiellement deux personnes d'Asparin, Mathieu Bordato et Edouard Oxobi, que nous connaissons bien, qui nous ont parlé de leur projet et qui nous ont convaincus que faire un Fab Lab à Asparin pourrait dynamiser le territoire. C'est une initiative innovante, donc on les a suivis. La mairie a participé en partie au financement, dans la mesure de nos moyens, hein, parce que forcément... On n'a pas de gros moyens étant une petite mairie. On a aussi poussé un certain nombre d'acteurs publics à s'intéresser au dossier et à regarder l'intérêt, à voir l'intérêt pour le territoire. Quand j'étais enfant, je pense que j'aurais adoré avoir un Fab Lab de disponible parce que c'est vraiment le genre de lieu où on peut apprendre à utiliser du matériel qu'on ne trouve en général que dans l'industrie. Découvrir déjà ce genre de matériel. On ne connaît pas forcément les imprimantes 3D, les découpes laser.
Ça ouvre des perspectives.
Ça ouvre des perspectives. Et puis, il y a un certain nombre de personnes dans le Fab Lab qui ont des connaissances très intéressantes en robotique. On a pu voir, lors de la Nuit des Étoiles, où nous les avons conviés, ils sont venus participer. Ils ont pu démontrer... leur télescope, donc un télescope qu'ils ont fabriqué eux-mêmes avec une imprimante 3D, la découpe laser, et ils nous ont montré les photos qu'ils faisaient avec ce télescope qui coûte apparemment vraiment pas cher du tout à fabriquer, des photos extraordinaires pour du matériel de ce prix-là, apprendre à réparer nos machines électroniques, quand une pièce est cassée, recréer la pièce en 3D, ou apprendre à réparer une soudure, ou des fois c'est vraiment pas grand chose hein, quand on a une machine qui ne fonctionne plus, et souvent on est bloqué, on la jette et puis on va en acheter une neuve. On n'ose pas l'ouvrir, ou alors quand on l'ouvre, on voit plein de choses dedans, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Voilà, je pense que ça peut être un bon outil pour former les gens et pour échanger aussi, puisque c'est quand même un outil d'échange à la base.
Ok, ben j'ai hâte d'aller découvrir. Merci beaucoup.
Ben merci.
De cet entretien.
Je vous en prie.
Pour accéder à Fab Lab EA, rien de plus simple. Le premier Fab Lab du Pays Basque a pour ainsi dire pignon sur rue. Sa vitrine se situe en effet à moins de 200 mètres de la mairie d'Asparin.
C'est ouvert.
Vous pouvez rentrer, j'étais en train de refaire la vitrine.
Ah.
Avec une thématique de rentrée.
Basée sur le sport, visiblement.
Non, pas non que, mais c'est très important ici. Donc,
Alors j'en sais déjà un petit peu plus du coup avec l'échange avec l'adjoint au maire sur.
D'accord.
Et en fait le nom m'intriguait, Fab Lab EA. Et fait, il m'a dit qu'il y avait peut-être un lien avec ce qu'il y a au fond de.
Voilà, c'est ça. C'est un jeu de mots, donc parce que c'est un Fab Lab.
Ouais.
Et donc Lab EA, c'est le four en basque. Et toute l'idée de ce lieu est partie de la restauration de l'ancien four à bois de boulanger qui existait dans la maison quand ils ont fait les travaux. Ils ont décidé de le restaurer, ils ont fait appel aux élèves ingénieurs de l'Estia de Bidart pour scanner la voûte et pouvoir la réparer, et ils se sont dit ça serait bien si on avait ce type de machine ici à Asparin. Voilà.
Donc là ça fonctionne.
Le four fonctionne, d'accord. Oui. C'est, okay. Il fait 3 mètres de long, et il y a des fours comme ça qui sont toujours utilisés par des boulangers, donc voilà. Nous on s'en sert pour les fêtes parce que... ça consomme énormément de bois si on l'utilise pas. Et pour le faire monter en température, oui. Un boulanger l'utilise tous les jours. Nous, c'est 3 jours de montée en température.
D'accord.
Donc on l'allume de temps en temps pour l'ambiance. Ça donne un petit côté très chaleureux quand on fait des petites fêtes et des choses comme ça. Et sinon, l'allumer à plein régime pour faire du pain, ça c'est réservé aux grandes occasions.
Donc du coup, je me permets de décrire un peu le lieu. Donc, oui, vous avez sûr. Un peu pignon sur rue, c'est que vous êtes à côté de l'église et vous avez...
Oui, on est vraiment au centre d'Asparin, sur la place vraiment qui est un lieu de passage pour tous les Aspandards et tous les gens qui vivent, tous les visiteurs. Donc on est vraiment très très bien situé en face de la place, en face de la fontaine, à côté de l'église. Donc voilà.
C'est... Et donc en dedans, là on voit donc toute une série d'ordinateurs qui sont présents, mis à disposition, et puis comme tout Fab Lab qui se respecte, je vois qu'il y a aussi du coup quelques machines un peu intrigantes au fond à droite.
Voilà, donc c'est un Fab Lab, donc un atelier de fabrication partagée qui est un lieu où on met à disposition du public des machines à commande numérique qui à l'époque étaient très chères et qui étaient réservées à l'industrie. Depuis quelques années, certaines de ces machines se sont beaucoup démocratisées, surtout les imprimantes 3D, mais ce n'est pas le cas de toutes les machines. Donc l'idée, c'est que les gens puissent venir s'en servir ici, apprendre à les utiliser, aussi faire des ateliers de toutes sortes. Donc le jeu de mots qui donne son nom au lieu entre Fab Lab et Lab EA, donc le four en basque, ça représente aussi un parti pris de rester un pied dans les deux mondes. C'est-à-dire que c'est un lieu avec des machines numériques, donc avec de la technologie moderne, mais c'est aussi un lieu qui ne tourne pas le dos aux savoirs traditionnels locaux et qui essaye de créer des passerelles entre les deux mondes et de faire des activités aussi bien numériques que non numériques, des activités de fabrication manuelle, parfois autour du four ou pas. Et l'idée, c'est de faire une programmation très diversifiée pour que chacun trouve chaussure à son pied, et en même temps aussi pour casser un peu les préjugés. Que des gens qui viennent pour un atelier culinaire ou une balade botanique où ils apprennent à reconnaître des plantes et un petit peu de curiosité pour ce qui se passe de l'autre côté, et se décident peut-être à tester une de nos machines. Et de la même façon que un geek très tech se rende compte que dans le tricot il y a plein de mathématiques, que dans le tissage, il y a l'origine de l'informatique, et essayer de casser un peu les préjugés qu'on peut avoir et de se dire que de toute façon, ce qui compte, c'est le plaisir de fabriquer quelque chose soi-même, quelle que soit la technique, et aussi le fait d'apprendre ensemble.
Je vois le petit logo, est-ce que vous les avez payés en EJCO ?
Il y a certains de nos fournisseurs que nous payons en EJCO, évidemment. Il y a aussi des usagers qui nous paient en EJCO. On a le service EJCO Pay aussi. Ils peuvent utiliser leur téléphone pour payer.
Et tout à l'heure, monsieur l'adjoint au maire aussi me parlait d'un projet que vous aviez mené dans le cadre de la Nuit des Étoiles, je crois.
Oui, nous imprimons des pièces de télescopes qui sont partagées open source. L'idée, c'est de permettre aux gens de se fabriquer eux-mêmes un télescope de bonne qualité, mais pour un prix bien moindre, parce que bon, il faut évidemment acheter la lentille et les miroirs, mais après toute la partie, le reste du télescope est imprimé en 3D, ce qui a un coût de revient quand même moindre qu'en acheter un tout près dans le commerce. Et l'idée, c'est d'en fabriquer une dizaine pour les distribuer après dans les écoles, les centres de loisirs, etc. de la région.
Okay.
Donc c'est un projet de John Civiter qui collabore avec nous, qui est de la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque.
Je vois juste sur un des murs qu'il y a les différents logos, je pense, de vos contributeurs.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous les citer ?
Il y a eu des aides, des subventions de la région, de la communauté d'agglomération du Pays Basque, du département, donc les Pyrénées-Atlantiques, et de la ville d'Asparin, et puis aussi de la Fondation Orange. Il y a aussi le fonds de développement de la vie associative qui dépend du ministère de l'éducation.
Donc, c'est vraiment très beau. Hein. Enfin, je suis émerveillé là, devant ce four là en briques rouges là, qui est au fond de vos locaux là. C'est vraiment très très beau.
C'est aussi pour ça que c'est important, je pense, de garder un lien avec les savoirs traditionnels et locaux. C'est parce qu'on se rend compte que dans la situation actuelle, on est en train de revenir à des choses qui étaient un bon sens de tout réutiliser, de ne pas gaspiller les ressources. Et ce four, c'est un exemple parfait, parce que c'est vrai que, par exemple, on peut se dire que ça consomme énormément de bois, mais une fois que le boulanger avait fait son pain, les voisins apportaient leurs marmites et laissaient cuire avec la chaleur résiduelle du four leur ragoût pendant des heures. Et à côté, il y a une lessiveuse qui faisait que la chaleur résiduelle du four allait servir à faire bouillir de l'eau. La suie qui était obtenue par la combustion du bois allait être utilisée comme agent lavant, comme lessive. Et donc on réutilisait tout. C'était vraiment un cercle vertueux de réemploi. Donc je pense qu'il y a énormément de leçons à tirer du passé. Et c'est très intéressant d'avoir ce four qui symbolise ça à l'intérieur d'un lieu où on voit des ordinateurs, du numérique. Dans les partis pris qui ont été pris par Fab Labéa, il y a aussi la volonté de consommer localement. Ici, nous avons le poste d'impression 3D. Nous avons une imprimante plus rare et elle a été fabriquée ici même, à Asparin, par une entreprise qui fait des imprimantes 3D sur mesure. Et donc, elle peut sembler grande, mais pour eux, ça, c'est une petite, parce que maintenant, ils font des imprimantes de 3 mètres. Donc, c'est aussi la volonté de consommer local. Et on ne peut pas faire plus local qu'une imprimante qui a été fabriquée à Asparin même.
Continuons maintenant notre pérégrination dans le Pays Basque en allant découvrir Tricyclope. Au début de l'interview de Marine Giraud à l'Institut Billard, j'ai fait référence à une rencontre fortuite au Café des Pyrénées avec un collecteur, une personne dont le métier consiste à collecter à vélo les mégots de cigarettes. En échangeant avec lui, j'ai découvert qu'il travaillait pour l'association Tricyclope, dont la mission est double. Pour en savoir plus, direction Bidart pour rencontrer Laurent Donce, son fondateur.
Alors Tricyclope, qu'est-ce que c'est ? En fin de compte, c'est une association qui a été créée en mai 2016 avec un objectif qui est de lutter contre le fléau des mégots de cigarettes jetés au sol. Voilà. Donc c'est parti d'un constat très simple, hein, qu'on constate tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup de mégots au sol. C'est que c'est une pollution absolument considérable. À l'époque, rien n'était fait. Par contre, on s'est rendu compte que ce déchet pouvait être valorisable. Puisque c'est un déchet qui est omniprésent et qui peut être recyclé, ben on va créer une filière de collecte pour alimenter une filière de recyclage. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer un territoire où chaque structure prend part à la lutte contre ce fléau.
Et pour comprendre un peu votre profil et votre parcours, est-ce que vous êtes ingénieur, vous êtes quelqu'un qui a plein d'idées, qu'est-ce qui...
Alors, voilà. Je suis pas ingénieur et je n'ai jamais rêvé de collecter des mégots de cigarettes. C'était pas un fantasme du tout. Non, moi j'ai fait. Alors d'abord, je suis originaire du Pays Basque, mais j'ai travaillé longtemps dans l'agroalimentaire, dans pas mal de coins de France et de l'étranger. Voilà. Mais par contre, le fait d'être né au Pays Basque, proche de la nature, j'ai sûrement une sensibilité environnementale assez importante. Et par contre, effectivement, oui, j'ai eu l'occasion de créer un pub irlandais sur Bayonne, en l'occurrence, il y a quelques années. Voilà. Donc, créer, ça me fait pas peur. Développer des projets, ça me fait pas peur. Voilà. C'est toujours des projets qui me tiennent à cœur, qui ont du sens, en fin de compte. Voilà. Et là, en fin de compte, c'était pas, le but, c'était pas de créer, quelque chose, c'était vraiment de répondre à une problématique qui n'était pas prise en compte à l'époque. Il y a à peu près 8 ans de ça, je crois que c'est à peu près la même époque, en fin d'année comme ça, j'étais aux États-Unis et je suis tombé en sortant d'un bar un soir sur un sticker qui parlait de recyclage de mégots de cigarettes. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on recycle des mégots de cigarettes. Et c'est ça qui m'a amené à creuser un petit peu ce sujet, à voir de quoi il parlait. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait une entreprise à l'époque, une entreprise américaine ou canadienne, je ne sais plus, qui s'était donné pour objectif de recycler tout ce qui n'était pas recyclable. Et ils avaient développé un projet avec des ingénieurs pour recycler des mégots de cigarettes. Et je me suis dit, c'est intéressant. Et quand je suis rentré ici au Pays Basque en janvier 2016, il se trouve que je suis tombé sur des mégots de cigarettes à 3 mètres de l'océan. Et je me suis dit, mais on est complètement fou, quoi. Est-ce qu'il y a que moi que ça dérange, voilà. Et en fin de compte, pour en avoir parlé un petit peu autour de moi, il y a pas mal de structures. Alors quand j'ai structure, c'était à l'époque des cafés, des hôtels, des restaurants, des villes à qui je suis allé en parler et qui me disaient tous, oui, on a un vrai problème avec les mégots de cigarettes. Il faut faire quelque chose, voilà. Et en fin de compte, on est parti comme ça. Et donc les premiers mégots qu'on a collectés, la première tonne de mégots, on les a effectivement recyclés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mégot ? Un mégot, c'est des restes de papier, de tabac et de cendres, et c'est surtout un filtre qui est un dérivé de plastique, c'est de l'acétate de cellulose, et ce filtre, il n'est pas biodégradable. Donc, l'idée, c'était, si on pouvait le recycler, on va collecter pour le recycler. Voilà. Donc, on a commencé par les recycler initialement avec des prestataires. Donc, le problème dont on s'est rendu compte, c'est que le recycler, globalement, il n'y a pas trop de difficultés. Ce qui est très compliqué, c'est de décontaminer ce déchet. Voilà. Faut savoir que chaque mégot contient à peu près 7000 polluants, dans ces polluants, c'est des métaux lourds, c'est des poisons violents comme de l'arsenic, c'est des pesticides, etc., etc., quoi. Voilà. Donc, la grosse complexité, c'est de décontaminer ce déchet, pour le recycler. Et donc, il s'avère qu'aujourd'hui, notre analyse, donc, nous, on est association de défense de l'environnement, on n'est pas là pour faire du business, notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie sur le fait que les recycleurs décontaminent complètement ce déchet. Voilà, on n'arrive pas à avoir des informations fiables. Donc, la décision a été prise en 2019, je crois, de dire, puisqu'on n'a pas de garantie sur la qualité du recyclage, on va faire de la valorisation énergétique. Donc, on travaille avec des unités de valorisation énergétique qui détruisent ce déchet toxique et écotoxique pour produire de l'énergie. Et cette énergie va alimenter le réseau urbain en électricité. Donc, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en parallèle, on fait de la recherche pour voir est-ce qu'on peut pas mieux valoriser ce déchet. Voilà. Mais on est surtout en train d'étudier pour voir comment on peut faire pour décontaminer vraiment ce déchet qui est toxique et écotoxique.
Donc, un mégot qui est dans la nature, on sait à peu près combien de temps il faut pour qu'il se détruise.
C'est une excellente question. Alors, le problème du mégot, en fin de compte, il y a deux problèmes principaux. Comme je vous le disais, donc un mégot, c'est des restes de tabac, de cendres, de papier et un filtre. Et ce filtre, en fin de compte, il est gorgé de produits toxiques. Il y a à peu près 7000 produits chimiques dans ce mégot-là. Donc, quand un mégot est mis au sol, il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier phénomène, c'est qu'au contact de l'eau, en une demi-heure, il va libérer tous ces polluants dans l'eau, dans le sol. Donc, première chose, c'est une pollution chimique de l'environnement, pollution de l'eau et pollution des sols. Voilà. Faut savoir qu'un seul mégot, c'est un tiers de gramme, ça pollue jusqu'à 500 litres d'eau, c'est-à-dire 3 baignoires. Voilà. Donc ça, c'est le premier effet. Et ensuite, le deuxième effet, c'est que ce mégot, donc ce filtre, une fois dans l'environnement, il va rester indéfiniment dans l'environnement. Donc on entend parfois parler de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 50 ans, etc. Non, une fois que le mégot, que le filtre va être dans l'environnement, il va rester indéfiniment dans l'environnement. Alors, il va pas rester sous la forme d'un mégot, il va se déliter, il va se transformer en macroparticules, en microparticules, en nanoparticules, mais il va rester indéfiniment dans l'environnement. Voilà. Donc concrètement, un mégot, ça ne se dégrade pas. Ça reste dans l'environnement indéfiniment. C'est pour ça que c'est extrêmement important de les collecter avant qu'ils tombent par terre. Parce que derrière, c'est une pollution qui est pérenne. Et ça va nourrir les plastiques soupes, hein, les microplastiques dont on parle régulièrement. Ben ça en fait partie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait des collectes sur les plages dans le monde entier, un déchet sur deux, c'est un mégot de cigarette. Hein. Tous les ans, il y a 850 000 tonnes de mégots, c'est-à-dire le volume total du Mont Blanc, qui est tout simplement balancé dans la nature. C'est ça l'enjeu auquel on est confronté.
Vous avez réussi à trouver un modèle entre l'énergie et l'argent dépensés pour la collecte potentiellement.
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut savoir, c'est que gérer les mégots de cigarettes comme on le fait, ce ne sont que des coûts. D'accord ? Il n'y a pas de source de revenus. C'est-à-dire qu'on vend pas les mégots qu'on collecte. On paye pour les traiter. Voilà. Donc aujourd'hui, le modèle économique qu'on a, encore une fois, on est une association. Moi, je pense que c'est un sujet trop sérieux pour en faire un business. Nous, on a un objectif, en fin de compte, qui est de faire en sorte que sur un territoire donné, donc on a commencé par le Pays Basque ici, mais de faire en sorte que sur un territoire donné, toutes les structures confrontées à la problématique du mégot au sol œuvrent de façon concomitante. Voilà. Et donc, quand je dis toutes les structures, je parle du café du coin, hein, qui accueille des clients, etc., et les gens fument en terrasse, tout ce qui est café, hôtel, restaurant, les entreprises qui accueillent du public, etc., les collectivités territoriales, bien sûr, hein, donc les villes qui ont la charge de mettre les cendriers sur l'espace public. Hein, voilà. Donc toute la difficulté, en fin de compte, pour nous, c'est comment on fait pour que tous ces acteurs, quelle que soit leur taille, leur diversité, puissent œuvrer de façon concomitante. Voilà. Parce que ça sert à rien que les villes mettent des cendriers si à côté de ça, les cafetiers disent à leurs clients de mettre leur mégot par terre. Il faut vraiment que tout le monde tire dans le même sens. Voilà. Donc nous, le modèle économique, c'est que nous adressons à des gens qui sont adhérents de l'association, qui payent une cotisation annuelle. Voilà. Et donc, on mutualise les coûts, quel que soit le nombre de mégots qu'ils vont collecter, leur cotisation ne bouge pas. Et on mutualise tous ces coûts. Voilà. Ensuite, quand on travaille avec les collectivités territoriales, là, pour le coup, c'est des marchés publics en général, donc on a des contrats avec les villes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un modèle. Donc, on est en économie sociale et solidaire. Hein, donc, c'est toujours un petit peu juste. En fin de compte, on a des marges faibles et compagnie. Et vraiment, on a un rôle. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur, mais on est militant à la fois. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour faire en sorte de bouger les gens, de leur faire faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire.
Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de tonnes. Vous en êtes vraiment à ce niveau-là de collecte où vous parlez en tonnes de mégots?
Aujourd'hui, on évolue de façon exponentielle. On évolue de façon exponentielle. L'an passé, sur 2022, on avait collecté 2 tonnes 8. Donc 2 tonnes 8, ça fait à peu près 9 millions de mégots. Hein. Et là, cette année, on sera entre 3 tonnes 6 et 4 tonnes. Voilà. Donc, avec une équipe restreinte, hein, c'est-à-dire que nous, on travaille de façon proactive sur le territoire ici. Donc, on répond favorablement à des demandes qu'on a de l'extérieur. Mais l'idée, en fin de compte, c'est vraiment de tester cette façon de travailler ici en local avant de l'essaimer. Voilà. Donc là, on est en phase où on va commencer maintenant à essaimer pour développer sur notre secteur.
Est-ce que du coup, ça a été aussi dans votre réflexion de comment trouver une mobilité qui permette de collecter assez régulièrement, mais sans avoir d'être suffisamment flexible? C'était aussi dans vos questionnements de départ, ça?
Ah ben c'est un questionnement qui est permanent. Hein. Nous, l'objectif, c'est d'avoir le moindre impact possible sur l'environnement. Alors, sur le territoire, ici, on collecte de deux façons. Chaque fois que faire se peut, on fait les collectes en vélo électrique. D'accord? Donc globalement, tout ce qui est collecte des cendriers municipaux, pourquoi? Parce que c'est souvent les cendriers qui sont assez concentrés, c'est des petits volumes. Dès qu'on passe à des volumes plus importants, là, on fait ça aujourd'hui en véhicule thermique, mais on est en train là, on est sur le point de passer pour faire les collectes de centre-ville, en l'occurrence, avec des vélos aussi électriques, des vélos cargo. Voilà. Donc, l'objectif vraiment pour nous, c'est de diminuer la part du thermique dans nos activités et de tendre vers les 100% en mobilité douce. Voilà. Mais ça pose pas mal de problèmes, surtout dans les distances et compagnie, etc. Voilà.
Notre podcast, cher auditeur, touche déjà presque à sa fin. Je dis presque, car après toutes ces rencontres, il me fallait une conclusion, et pour ce faire, je souhaitais prendre un peu de hauteur sur le sujet. Or, le hasard faisant parfois bien les choses, il s'avère que durant mon retour en train, j'avais entre les mains le livre « La société du sans-contact » de François Saltienne. Journaliste, François est aussi producteur de l'émission « Le meilleur des mondes » sur France Culture. Et chaque semaine, il y questionne les nouvelles technologies qui reconfigurent notre société. Eh bien, non seulement son livre m'a passionné, mais en plus, François Saltiel est très attaché au Pays Basque. En effet, il y a cofondé le Texiki Festival, un festival de cinéma et d'éducation aux images et aux médias, conçu spécialement pour les enfants. Il n'en fallait pas moins pour essayer de le contacter. Et c'est dans un café parisien que nous nous sommes donné rendez-vous il y a quelques jours.
Comment tu as l'habitude de te présenter ?
Moi, je suis avant tout journaliste. Donc là, aujourd'hui, je suis producteur à France Culture d'une émission qui s'appelle Le Meilleur des Mondes, qui est une émission qui analyse le numérique et la manière dont globalement le numérique et les nouvelles technologies bouleversent notre vie et notre quotidien. Ça, c'est une émission hebdomadaire qu'il y a sur la chaîne. Et depuis la rentrée, j'ai une chronique quotidienne dans la matinale de France Culture aussi, qui s'appelle Un monde connecté, et qui, tous les jours, se charge d'explorer en 3 minutes un enjeu du numérique.
Alors, ce qui m'intéressait, c'était ce livre qui a été écrit il y a déjà quelques années, La société du sans-contact, et puis aussi ton lien physique, du coup, avec une région de France qui est le Pays Basque. Peut-être, en deux mots, c'est une relation qui est ancienne avec ce territoire du Pays Basque ?
C'est une relation qui a une dizaine d'années. J'ai pris l'habitude, pour des raisons et professionnelles et personnelles, de partager ma vie en partie entre Biarritz et Paris. Et puisque tu parles du numérique, c'est intéressant et important pour moi aussi d'avoir cette évasion en fait dans un territoire où la nature est si proche et si importante. C'est-à-dire que Biarritz, c'est quand même une ville où il y a l'océan qui est à fleur de peau, qui est à fleur avec la ville. Et je trouve ça intéressant aussi, quand on s'intéresse au numérique, donc au monde un peu virtuel, d'être si proche des éléments naturels, physiques, qui nous rappellent aussi la spécificité en fait du monde physique et naturel.
Dans ce podcast, on a rencontré une personne engagée avec l'idée de fédérer les gens autour de beaux projets. Pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que le Pays Basque, la culture fait de faire société, c'est une réponse aux aléas du numérique, ou plutôt aux dérives du numérique, comme ils sont décrits dans ce livre ?
Ce qui est intéressant avec le Pays Basque, c'est que c'est un territoire avec une forte identité. Il y en a d'autres en France, mais ça nous ramène en fait à l'échelle aussi du local. C'est-à-dire que le numérique, par définition, c'est l'abolition un peu des frontières. C'est même ce que McLuhan avait prédisait déjà quand il parlait du village global. C'est ce que vraiment le numérique nous a apporté. C'est-à-dire qu'on est à la fois partout, tout le temps, avec même une sorte de dislocation de l'esprit. C'est-à-dire que le numérique nous propose des solutions pour avoir un peu cette vue omnisciente. Et en même temps, en étant partout, on le sait bien, on est nulle part. Et ce qui est intéressant avec le Pays Basque, c'est un territoire où on est. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une incarnation très forte des gens qui y vivent. Ils sont attachés à leur territoire, ils sont attachés à leur culture, ils sont attachés à leur identité. Donc en ça, moi, je crois beaucoup aussi, pour essayer de pallier les dérives du numérique, cette forme de déshumanisation, le retour au circuit court de la sociabilité, le recours aussi aux associations, aux fédérations, aux regroupements, aux collectifs. Et ça, justement, ce collectif, il s'explore, il se vit davantage et de manière plus pertinente et plus réelle, surtout lorsqu'on est dans une échelle locale. D'autant plus dans une région qui revendique son identité et sa culture. Donc oui, en ça, le Pays Basque et ceux et celles qui y vivent participent à cette lutte contre la déshumanisation que le numérique peut engendrer. Et dans un second point aussi, c'est que c'est aussi un territoire très attractif, c'est-à-dire qui permet aussi des gens comme moi, et on est très très nombreux, à passer par le Pays Basque, à avoir un lien sans forcément y vivre au quotidien. Donc c'est important aussi d'avoir cette mobilité, cet échange, mais dans un territoire qui a une identité propre, qui lui permet à la fois de défendre une culture, mais d'être aussi accueillant.
Peut-être un mot sur la couverture. Le titre, tout d'abord, La société du sans-contact, qui est un mot peut-être aussi sur tout ce qu'il y a autour, alors qui sont des éléments graphiques, qui représentent un écran, bien sûr, de téléphone. C'est l'avantage d'un podcast, c'est que du coup, on peut prendre le temps de décrire une couverture, paradoxalement. Et il y a surtout, en haut à droite, cette petite jauge de batterie qui est vide, qui est, voilà, je veux savoir si c'était complètement anodin ou s'il y avait derrière quelque chose de plus profond.
Non, sur la batterie vide, effectivement, elle est là à plusieurs égards. Ça a été une vraie question d'ailleurs avec l'éditeur de se dire, est-ce qu'on met une batterie pleine ou une batterie vide ? Alors on a opté pour la batterie vide, déjà parce que la couverture reprend cet écran de smartphone qui est un objet matriciel de nos vies connectées. Il y a eu quand même un avant et après smartphone, c'est ce qu'on appelle vraiment une rupture technologique 2007 qui fait qu'on est dans une connexion permanente. Et dans cette connexion permanente, la batterie est la nouvelle jauge finalement de nos possibilités. Dans le livre, je raconte d'ailleurs qu'on a transformé un peu le temps en étant la batterie. On se dit pas quelle heure il est, on se dit combien de batterie il me reste pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir rejoindre quelqu'un, pour pouvoir travailler. Donc la batterie, c'est intéressant de la mettre ici. Puis la batterie, elle montre aussi qu'elle est limitée. Parce que là, elle est dans le rouge, et elle est aussi le témoin de ces ressources qui ne sont pas illimitées comme le numérique aimerait nous faire croire. C'est-à-dire qu'on a tous des problèmes de batterie, un jour ou un autre, on a tous des problèmes de batterie au quotidien, et cette batterie, elle explique aussi la finitude des ressources technologiques qui sont, encore une fois, loin d'être illimitées. Puis elle est souvent aussi synonyme d'angoisse, de se dire « qu'est-ce que je vais faire sans batterie ? Qu'est-ce que je peux faire lorsque mon téléphone sera éteint, sera à plat ?» Et dans le livre, on le sait bien et on l'a tous vécu, que lorsque le téléphone s'arrête, c'est pas la vie qui s'arrête et qu'au contraire, c'est une autre vie qui peut reprendre. C'est-à-dire une vie qu'on a aussi un peu perdue parfois, c'est-à-dire qui passe principalement par le contact humain.
Et donc, sur le titre, il y a eu un changement, c'est ça, un twist ?
Oui, il y a eu un petit changement, c'est-à-dire que ce livre a été pensé avant la période des confinements, donc il s'appelait « Selfie d'un monde en chute », la cité du sans-contact, puisqu'au début, je voulais beaucoup plus travailler sur la notion du selfie, qui me semblait très intéressant aussi comme acte à de la fois narcissique, de représentation de soi. Monde en chute, c'est bien sûr la crise écologique qui nous guette. Et ensuite, c'était la société du sans-contact qui était en sous-titre. Et le sans-contact ayant gagné en importance à mesure que le confinement avançait, puisque c'est devenu une solution, un rempart pour continuer à vivre, et malgré toutes les nouvelles contraintes et les nouvelles normes qui s'imposaient à nous, je me suis rendu compte que le sans-contact était finalement un concept qui méritait de pouvoir refaire la couverture, et le selfie d'un monde en chute est devenu le sous-titre. Donc il y a eu une inversion de par la puissance du sans-contact qui a été propulsé par la crise sanitaire.
Alors, on va ouvrir du coup tourner la couverture et tout de suite aller sur les personnes, alors pas forcément à qui est adressé ce livre, alors pas pour savoir qui elles sont, mais donc ces trois prénoms, en lisant, j'imaginais que c'était des personnes qui étaient jeunes, qui peut-être ne connaissaient pas le monde d'avant.
Exact.
Est-ce que l'idée de ce livre, c'est aussi finalement de dire qu'un autre monde, non seulement est possible, mais a été possible avant ?
Oui, je pense que l'idée, c'est de s'intéresser à cette nouvelle génération qui arrive, bon là en l'occurrence, sans dévoiler de secret, c'est mes enfants, ma belle-fille et mes deux enfants. Et puis pour reprendre justement sur le Pays Basque, j'ai aussi pendant longtemps travaillé dans un festival d'éducation qui était à l'adresse des jeunes générations. Et ce qui est intéressant avec les jeunes générations, c'est qu'il y a un peu un fantasme, justement, on les appelle les digital natives, c'est-à-dire que ceux qui sont nés avec le digital, et on a l'impression qu'ils savent très bien se repérer, qu'ils savent très bien comprendre la manière dont cette société fonctionne, à l'inverse des plus vieilles générations qui seraient dépassées par la technologie. En fait, c'est pas du tout vrai. Lorsqu'on confronte justement cette nouvelle génération, même avec la manière dont le numérique fonctionne, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension ou de non-connaissance. Donc ils sont très forts sur les réseaux sociaux, qui sont pensés pour eux, pensés d'ailleurs de manière assez instinctive, mais ils ne comprennent pas forcément la manière dont le numérique fonctionne, et puis quelle est soit l'utopie qui a guidé aussi l'apparition de ces nouvelles technologies, ou alors quels sont les imaginaires, ou quelles peuvent être les instrumentalisations de ces technologies-là. Donc je pense que c'est important aussi de s'adresser à eux, pour casser déjà quelques idées reçues, et aussi parce que c'est eux qui sont complètement dans ce monde et qui le seront encore plus demain.
En parcourant le livre, donc on rentre par les réseaux sociaux, et après c'est une progression qui est presque anthropologique, c'est-à-dire que derrière les réseaux sociaux, après il est question de comment on est les uns par rapport à les autres avec l'idée de la surveillance, et après avec aussi le comment on aime, comment on rencontre les autres, et puis on va vers juste des questions jusqu'à parler de la mort.
Je crois que l'ambition c'était de sortir le numérique de son champ auquel il est souvent assigné, c'est-à-dire soit c'est un champ économique, on va parler du numérique comme une industrie, et il va être traité médiatiquement que d'un point de vue économique, on le voit beaucoup avec les GAFAM, soit tout simplement un angle B2B, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire un angle très business à l'intention des professionnels, ou alors avec un angle un peu de geek, de spécialiste de la technologie, qui est toujours derrière son écran et qui veut comprendre les dernières innovations. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'appréhender le numérique dans sa dimension sociale, philosophique, d'usage aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment une révolution pour moi, mais une révolution totale. C'est-à-dire que le numérique est rentré dans chaque pan, chaque champ de notre existence. C'est pour ça que ça m'intéressait de le regarder, de l'observer dans tous les pans que compose notre vie, et donc même au-delà, puisqu'on parle de la mort, mais on parle aussi de la manière dont on peut dépasser la mort. Là, c'est vraiment tout l'imaginaire transhumaniste qui est très présent dans la Silicon Valley et aussi un petit peu en Europe. Donc oui, l'ambition, c'était d'expliquer que le numérique est partout et dans chaque champ de notre monde. Donc il y a, d'une certaine manière, oui, une ambition un peu anthropologique de voir comment ça change finalement l'humanité, comment ça change l'humain, comment ça change la manière dont l'humain se perçoit et comment ça change peut-être les relations qu'on entretient tous les uns avec les autres, qui vont du travail à l'amour.
En lisant ce livre, on dessine aussi en miroir la société d'avant. Est-ce que c'est le livre d'un réac ?
C'est vrai que c'est ce que le titre pourrait laisser transparaître. Alors, je pense pas pour... bon, déjà, je m'assume pas comme réac, mais je pense pas pour deux raisons. La première, c'est que, et je le dis dans le bouquin, je vais pas regarder le monde qui évolue comme étant un observateur passif de ce monde-là, d'ailleurs, qui était que le représentant du monde d'avant, en disant, voilà, la société change, elle mute, elle est moins humaine, elle est moins ceci, elle est moins cela, et le monde se délite. Déjà parce que ma génération, peut-être comme la vôtre, c'est plutôt une génération d'entre-deux, c'est-à-dire que j'ai connu le monde d'avant, mais j'ai très vite connu les ordinateurs, Internet et les téléphones portables, je suis né au début des années 80. Donc, on est un peu une génération qui a eu les deux pieds. On a connu un peu le monde d'avant, mais on n'y est pas totalement, on n'a pas connu exclusivement que le monde d'avant. On a été aussi à plein par rapport à la révolution numérique et son imaginaire. Et deuxièmement, c'est que par rapport à ce que je décris comme étant des problématiques, notamment par rapport à la difficulté de la préservation du lien humain, je me considère comme une victime aussi et comme moi-même un complice de certains agissements, de certains usages. Donc je suis à la fois dans une forme d'observation participante. Et puis par ailleurs, j'utilise les outils numériques dans le cadre de mon métier et j'essaie de m'extraire aussi d'une vision typiquement manichéenne ou purement manichéenne. En pensant que toutes les technologies par nature sont mauvaises. Je tombe pas non plus dans le piège de dire que la technologie est neutre, hein, parce que je pense que la technologie n'est pas neutre. La technologie, elle est politique, elle est designée en fonction d'un usage qui sert des intérêts. Pour moi, la technologie n'est pas neutre. Ça, c'est une défense qui est souvent employée par ceux qui la font. Mais pour autant, la technologie peut complètement servir des causes, a permis justement la libération de la parole, j'en parle un peu dans l'ouvrage puisqu'on a parlé des réseaux sociaux, que ce soit le mouvement MeToo, Black Lives Matter ou autre, ça a permis un contrepoint aussi de gens qui étaient un peu exclus du paysage médiatique traditionnel. Donc je dirais pas réac, parce que j'essaie d'avoir une vision un peu plus nuancée que celle-là, et aussi parce que y a plein de choses que j'adore, mais que j'adore détester aussi.
Il y a quelques années, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a eu tout un langage de la French Tech,
la Startup Nation.
Est-ce que vous regardez finalement ce que font les élus et comment eux ils se positionnent par rapport au numérique ?
On est obligé, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le numérique est politique. Donc, de toute façon, le numérique, et il est plus que jamais aujourd'hui. On voit que, alors je dirais deux choses. Je dirais que, c'est vrai que Emmanuel Macron, alors Startup Nation, etc., sont des éléments de langage, mais ce que son élection a apporté en 2017 et ensuite ce que son mouvement a apporté, ne serait-ce qu'au Parlement, c'est un rajeunissement tout de même de l'Assemblée nationale avant le dernier en date, qui fait qu'il y a quand même plus d'élus, plus jeunes, qui sont plus connectés avec les thématiques qui concernent ce livre et qui concernent notre temps. Moi, j'ai pu, par ailleurs, dans mon activité journalistique, rencontrer beaucoup d'élus avant. Comprenaient vraiment les enjeux du numérique. C'est-à-dire qu'ils étaient totalement déconnectés parce que c'est dur aussi d'être en prise avec cette matière-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des élus qui sont plus sensibles par rapport aux enjeux de ces outils. Néanmoins, il faut évidemment regarder l'activité politique puisqu'il y a un temps technologique et aussi un temps législatif par rapport aux dérives qui sont pointées dans ce livre. La toxicité des réseaux sociaux, l'absence de modération, la haine en ligne, le cyberharcèlement. Vous voyez que tous ces sujets-là reviennent constamment en fait sur la place publique et aujourd'hui, il y a une volonté d'imposer, de réguler, d'encadrer, qui n'existait pas au moment de l'écriture de ce livre. Des textes européens qui sont entrés en vigueur en août dernier, comme le DSA, Digital Services Act, ou le DMA, le DMA qui concerne en fait le marketing, pareil, ça doit être Merchandising Act, je pense. Ces deux textes sont entrés en vigueur, ou à l'échelle française, le SREN, donc le texte censé sécuriser l'espace numérique, sécuriser et réguler l'espace numérique, tout cela, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une volonté aujourd'hui, dans un temps législatif où le politique s'en empare, parce qu'il sait que ça abîme la démocratie, globalement, et qu'il peut y avoir des dérives qu'on ne maîtrise pas. Donc toute la question qui se joue aujourd'hui, c'est un temps de la technologie qui va très vite, trop vite parfois, un temps législatif qui est encore dans une temporalité qui est lente, le temps de la justice et le temps législatif est lent, donc il est toujours un peu à la traîne par rapport à des technologies qui nous dépassent toujours. Mais au moins, il y a une préoccupation de vouloir encadrer ces technologies-là, parce qu'on comprend qu'elles ont un impact majeur sur la manière dont on fonctionne tous les uns avec les autres. Elles ont un impact social très important.
Cette fois, votre troisième épisode de Vendredi ou la Ville Durable consacré au Pays Basque et à l'ESS touche vraiment à sa fin. Un immense merci à toutes les personnes qui m'ont consacré un peu de leur temps et de leur bonne humeur pour le réaliser. Je pense bien évidemment à Mehdi Esteban de Lochecourt, à Marine Giraud de l'Institut Billard, à Olivier Allemand, adjoint au maire de Bayonne et conseiller départemental en charge d'Antique, à Franck Dupont du NFT Biarritz, à Bénédicte Solem, fondatrice d'ITSA, à Jérôme Larieux, adjoint au maire d'Asparin, à Clara de chez FabLabéa, à Laurent Donce, fondateur de Tricyclub. Un immense merci également à François Saltienne. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive et pour votre curiosité. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 15 décembre prochain, qui tombe un vendredi forcément, pour un nouvel épisode de Vendredi ou la Ville Durable. Pour ce quatrième et dernier podcast de l'année, nous partirons à Strasbourg pour y rencontrer de nombreux acteurs engagés sur les problématiques liées à la mobilité. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, ou comme on dit en basque, agur astearte.